Le magazine Femina de VOA Afrique.
L'implication des femmes et des jeunes dans la résolution des conflits, ont-ils leur mot à dire? Est-ce qu'on les écoute? C'est la question qui a été posée sur le Facebook de VOA Afrique à nos chers auditeurs. En effet, la guerre, la violence armée, l'instabilité politico-militaire sont des fléaux encore très présents dans certaines régions du monde où la jeunesse rêve forcément d'un bel avenir en se cramponnant aux plus nobles idéaux, à commencer par ceux de la paix et de la prospérité. Alors avec moi dans le studio pour en parler, Nita Evele, membre du conseil d'administration de la fondation Panzi. Bonjour Nita, merci beaucoup d'être avec nous.
Bonjour Nathalie et merci pour l'invitation et bonjour aux auditeurs.
C'est un plaisir pour nous. Nous avons normalement également en ligne, mais peut-être pas encore, nous cherchons à avoir Flora Samba qui est psychologue clinicienne, qui est fondatrice d'Obuni, responsable de communication à CSA, Samaritain canadien pour l'Afrique, qui soutient le projet Espérance et Solidarité donc pour la Centrafrique. Alors on va continuer d'essayer de la joindre. Donc Nita Evele, la fondation Panzi, la fameuse fondation Panzi du fameux docteur Mukwege, n'est-ce pas? Vous êtes bien placée pour savoir justement qu'en est-il de cette implication des femmes, notamment dans l'est de la RDC. On va commencer par là, c'est de là que vous venez.
Absolument. Mm-hmm. La fondation Panzi ou l'hôpital Panzi à Bukavu, en République démocratique du Congo, a été justement créé pour aider physiquement et psychologiquement les femmes qui ont été victimes des violences sexuelles durant toutes les rébellions qui ont eu lieu en RDC durant les 20 dernières années. Et absolument, à Panzi Foundation ou à l'hôpital de Panzi, on sait exactement ce que c'est la guerre et le prix que les femmes et les enfants payent quand un pays est déstabilisé et il y a des rébellions récurrentes. En tout cas, au Congo, les nombres sont assez élevés. On parle de plus de 500 000 femmes qui ont été victimes de violences sexuelles et presque 5 millions de morts pendant les rébellions. Et la dernière fois qu'on a compté les morts, c'était en 2004. Donc, depuis 2004 jusqu'à maintenant, on sait que les nombres ont bien augmenté et que la guerre en RDC a fait beaucoup plus de victimes que dans n'importe quelle autre guerre civile en Afrique.
Alors, justement, ces femmes qui ont été victimes de violences dans l'est de la RDC, j'imagine après qu'il y a des systèmes de microcrédit pour les aider, etc. Mais est-ce que il y a des cas où ces femmes elles-mêmes qui ont été les victimes, comme vous l'avez dit, sont impliquées directement après dans les processus de paix, les discussions au niveau local, etc.
Oui, absolument. À Panzi, c'est que l'hôpital essaie de faire après que la femme a été prise en charge physiquement. Ça veut dire qu'elle est passée sous la chirurgie où on a essayé de réparer les blessés. Elle reçoit des cours. Elle reçoit, si elle n'a pas, eu une éducation formelle, elle reçoit des cours pour apprendre à lire. Et en même temps, elle reçoit des cours d'éducation civique. Ça veut dire qu'on lui apprend ses droits et devoirs comme citoyen dans la société pour justement revendiquer ses droits. Bien sûr, pendant tous les traités ou les accords qui ont été signés, les femmes ont tout essayé pour participer.
Les derniers, là, elles n'étaient pas très contentes, il me semble. Elles n'ont pas pu vraiment beaucoup participer.
Si, pas du tout. Alors, le dernier qui est en cours pour l'instant, par exemple, on n'a pas pris en considération les groupes des femmes, malgré que on sait très bien que les femmes ont participé dans beaucoup de programmes. Elles ont été ministres, elles ont été députées, elles ont prouvé au monde qu'elles pouvaient participer aux accords, mais elles n'ont pas été prises en charge. Elles n'ont pas été considérées comme partenaires dans les pourparlers. Et c'est là le problème, parce que elles ont été victimisées. Elles sont quand même la majorité dans la société, mais malheureusement, elles ne sont pas prises en considération quand on arrive à mettre en place des accords. Et ça, c'est parce que quand on arrive à des accords, ça veut dire que il y a eu une guerre et pratiquement personne n'a gagné. Et les personnes qui ont commencé les guerres, donc les belligérants, viennent pour essayer de partager le pouvoir. Et c'est souvent ce qui se passe. Et comme malheureusement ou heureusement, je ne sais pas dire, les femmes ne commencent pas les rébellions ou elles ne sont pas partie prenante de guerre. Et donc, elles ne sont pas belligérantes. Donc, elles ne sont pas prises en considération pendant les partages de pouvoir.
Alors, justement, c'est pour ça que j'aurais voulu qu'on insiste un peu pour essayer d'avoir Flora Samba. Malheureusement, on ne parvient pas à la joindre, mais elle était invitée, donc on ne perd pas espoir de pouvoir lui parler. La Centrafrique, c'est un bon exemple aussi. La Centrafrique, les femmes ont été énormément impliquées. Elles se sont imposées. Excellent. Et ce que vous dites, effectivement, les belligérants, les gens veulent se partager le pouvoir. Ça, c'est pas très féminin, en fait, comme truc. Hein.
Pas du tout, pas du tout. Peut-être parce qu'elles sont pas activement dans la guerre. Elles n'ont pas pris des armes, ça veut dire elles n'ont pas capturé des régions où elles n'ont pas montré qu'elles se battaient. Souvent, elles ne se battent pas, elles sont victimes, en général. Donc, quand on arrive à la table, bien sûr, les personnes qui croient qu'ils sont arrivés à la table par leur effort de guerre, ils ne veulent pas partager ce pouvoir. Parce que toutes les guerres, même si on veut...
Et c'est là le problème, voilà, la question, elle est là, en fait. Mm-hmm, est-ce que, selon vous, par exemple, la jeunesse, on va parler de la jeunesse, tous ces mouvements-là, Lucha, Yanamar, Filimbi, tous ces mouvements de jeunes, est-ce qu'ils sont vraiment indépendants? Est-ce que c'est vraiment la jeunesse qui se lève, je vais dire la jeunesse apolitique, ou est-ce qu'ils sont récupérés à droite et à gauche?
Oh, absolument. Quand ils arrivent à créer leur mouvement, c'est vraiment des jeunes qui veulent voir un changement. Ouais. Bien sûr que c'est difficile dans des dictatures, par exemple, que des jeunes qui soient en train de se battre pour leurs droits sont pris au sérieux. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont que leur corps comme arme, et ils viennent avec des idées pacifiques en général pour essayer de faire partir une dictature. Et c'est très difficile dans les contextes africains, par exemple, parce que là, on sait bien qu'il y a répression, on les arrête, on les met en prison. Et ils n'ont vraiment pas...
Donc en fait, eux, voilà, ils n'ont même pas été dans les discussions des derniers accords, ces jeunes-là?
Pas du tout. On ne les a pas pris en considération parce qu'on les considère... Comme je dis, les gens viennent partager le pouvoir. S'il y a plus de monde autour de la table, eh ben, le pouvoir devient de plus en plus petit. Et ils ne veulent pas augmenter le nombre des gens qui vont réclamer de postes ou quoi que ce soit, parce qu'ils veulent partager le pouvoir le plus possible entre eux, entre belligérants, ou entre les personnes, les politiciens par exemple. Et comme la Lucha et les Filimbi et les Yanamar et tout ça, ils sont dans la rue, et souvent récupérés par l'opposition en général, parce que l'opposition a besoin des jeunes pour mobiliser le peuple. Donc une fois que la mobilisation est faite et qu'ils sont pris en considération, l'opposition sur la table ne veut plus partager le pouvoir avec les jeunes. Et c'est souvent ce qui se passe. Et c'est vraiment dommage parce
c'est une grosse frustration pour la jeunesse.
Absolument.
Une
absolument,
déception, une grande déception même.
Très, très, parce qu'ils ont prouvé au monde qu'ils sont capables. Et souvent, c'est des jeunes qui ont fait des grandes études, qui comprennent, et qui comprennent que l'avenir de l'Afrique, ce n'est plus pendant les guerres ou les rébellions, c'est dans la démocratie, et que le peuple a le droit de se choisir leur représentant.
Est-ce que ça fait peur aux dirigeants africains, ça, justement, cette nouvelle vague qui est pro-démocratie et qui est très instruite et
absolument,
qui...
absolument, parce qu'une fois que quelqu'un parle des lois et des droits et des revendications qui sont dans la loi et la constitution, c'est vraiment, ça fait peur aux politiciens, parce que ça veut dire qu'une fois que ces jeunes ou les mouvements qui commencent à éduquer le peuple, aux prochaines élections, si vous êtes dirigeant et vous n'avez rien fait pour la population, il y a de chances que vous soyez bouté dehors. Et ça, ça fait très peur aux dirigeants africains qui ne sont pas très démocratiques et qui ne croient pas vraiment à prendre le pouvoir par la voie du peuple. Ils croient plutôt à prendre le pouvoir par la voie des accords, comme je dis, de dialogue. On voit ça partout. Qu'une fois qu'on arrive en fin de mandat, les présidents ou les dirigeants africains, souvent, ils créent quelque chose pour aller en dialogue ou en pourparler, pour essayer d'extinguer.
On connaît ça dans quelques pays, dans la RDC.
Absolument, absolument. Et l'opposition qui se voit mis à côté, ou se voit perdre la possibilité de prendre le pouvoir, n'a souvent plus de choix que de coopérer, comme ça il peut partager le pouvoir. Et ça devient un partage de pouvoir entre politiciens.
C'est très difficile, en effet, pour les jeunes de se retrouver un petit peu là-dedans, de ne pas être pris en otage par les uns ou par les autres, en effet. Et les femmes, c'est peut-être encore pire, elles sont encore plus marginalisées.
Absolument.
Donc c'est un petit peu optionnel, les femmes, aller à un mouvement de femmes, on va dire, bon, voilà, il y a un groupe de femmes, allez, vous venez, on va vous écouter, mais bon, c'est toujours un petit peu marginal.
Pas
quoi,
nécessairement vous écouter, vous faites partie, vous devenez un nombre de pression. On veut augmenter le nombre, on dit, ok, on a organisé une marche et on a eu un grand nombre de participants, y compris les femmes. Mais une fois qu'on est pris au sérieux comme groupe ou parti politique, parce
les femmes sont très faciles à mobiliser dans la rue.
Elles sont très loyales, elles sont très écoutées. Et souvent, elles viennent avec le cœur parce qu'elles croient à la. Voilà. Et une fois qu'on est arrivé là où on veut, eh bien, voilà, il n'y a aucune femme qui partage le pouvoir ou participe.
On a un auditeur en ligne, Christian. Comment ça va ?
Ça va un peu et vous ?
Ça va bien, on vous écoute, Christian.
Oui, par rapport à ce thème, c'est un thème très important parce que dans les conflits en Afrique, un peu partout, c'est les femmes et les jeunes qui en souffrent. Normalement, on devait laisser au moins l'habitude aux femmes de proposer une sortie de crise par rapport à ce qu'ils disent. Parce que ces femmes sont trop marginalisées, même dans les camps de réfugiés, c'est les femmes et les jeunes qui sont nombreux. Donc on devait accorder au minimum le temps aux femmes de dialoguer, de trouver une solution à ce conflit. Parce que c'est elles qui sont les victimes.
Sortie de crise, en effet, les sorties de crise, il y a des solutions particulières de la part des femmes pour les sorties de crise qui peuvent être différentes de celles des hommes.
Oui, souvent les femmes ne sont pas là pour leurs intérêts personnels. Quand les femmes arrivent à se mobiliser et à s'impliquer dans la politique ou dans les accords, c'est parce qu'ils voient l'avenir.
Donc pas de parti pris déjà, moins de parti pris.
Elles viennent parce qu'elles voient l'avenir d'une communauté, là où elles étaient, où
d'ailleurs,
les enfants.
D'ailleurs, très souvent, on voit plusieurs religions, plusieurs femmes, comme c'est le cas en Centrafrique.
Absolument.
Se réunir, les femmes de plusieurs religions, de plusieurs parties, etc.
Souvent, vous les entendez parler des éducations des enfants, parce que la femme voit d'abord ses enfants et l'avenir. Et souvent, c'est elle qui est, en Afrique en général, c'est elle qui gagne le gagne-pain de la maison, parce qu'elle fait des petits commerces, elle travaille dur pour nourrir la famille et la communauté. Et elle aimerait voir ses conditions améliorées pour pouvoir justement arriver à nourrir sa famille. Et la femme vient, pas pour elle, pas pour prendre le pouvoir en général, mais pour vraiment trouver
des
solutions.
Donc en fait, elle peut avoir même des solutions plus pratiques, plus objectives, n'est-ce pas ? C'est
absolument.
Ça ? Parce que, elle connaît cette réalité-là à la maison, de toute façon.
Absolument. Et souvent, les hommes, ils sont là parce qu'ils veulent avancer leur cause ou se positionner personnellement.
Ses ambitions,
être ministre, avoir la possibilité d'augmenter ses finances personnelles en général, et pas nécessairement de la communauté. Mais la femme, quand elle vient, elle se dit d'ailleurs, c'est moi qui s'occupe de la communauté, et si elle ne s'occupe pas des enfants et de sa famille, elle s'occupe au moins de sa propre famille, ses parents, ses sœurs et tout. Donc elle a vraiment le poids de la communauté sur son dos. Et souvent, quand elle vient pour parler de des accords, elle voit tout le monde, elle ne voit pas seulement elle. Et souvent, même quand elle a participé aux accords, à la fin, c'est à elle qu'on ne donne pas les positions. Et aussi, on lui donne les positions la première fois. Après, on cherche tout pour l'enlever, parce que les hommes...
Ou alors, on est obligé de s'organiser un petit peu comme les femmes de la Mano River, de faire vraiment nos organisations. Je crois que nous avons justement une dame en ligne, Maria Kabangé, qui a dit l'implication des jeunes dans la résolution des conflits est bonne, mais leurs opinions sont moins exaucées car ils sont très faciles à manipuler. Maria, vous êtes ici ?
Oui.
Ah, c'est un monsieur, c'est un monsieur, excusez-moi. On vous écoute.
Ok. Les femmes sont faciles à manipuler compte tenu de leur foi, naturellement inférieure à l'homme. Quand je dis naturellement inférieure à l'homme, car la femme, sur... plan historico-biblique, elle est toujours pas du tout mal considérée que l'homme, mais aussi elle a un caractère inférieur à l'homme. Alors, ce caractère vise toujours à la femme jusqu'à sa dernière soupir.
Je suis désolée, Marie, on va vous arrêter parce qu'on a vraiment beaucoup de mal à vous comprendre. C'est pas de votre faute, c'est la ligne. Mais si j'essaie de comprendre un petit peu, c'est historique, c'est biblique. La femme est toujours considérée comme un être inférieur, c'est pour ça qu'elle a moins de place. Mais bon, la question, c'est un petit peu surtout de savoir justement peut-être quel genre de place elle peut occuper. Donc on va poursuivre avec des commentaires de nos auditeurs. Parenthèse. Donc voilà, je voudrais en profiter pour lire quelques commentaires de nos auditeurs. Hein, comme on ne peut jamais tous vous avoir au téléphone, parfois ce n'est pas évident. Il y a Jean-Claude Cazadi qui a dit, qui a écrit sur le Facebook de VO Afrique, en Afrique, toutes les questions politiques ou de conflits sont discutées entre politiciens sans toutefois écouter personne, ni les jeunes, ni la population en général. Et je me demande si on crée un nouvel élément constitutif de l'État en droit international africain. Les politiciens ont pris l'État en otage. Réflexion intéressante. Donc ça, c'est Jean-Claude Cazadi qui le dit. Il y a Jacques Mahunion qui dit « Les femmes sont écartées du processus de dialogue politique ici en Afrique ». Donc ça, c'est des gens quand même qu'on essaie de joindre. Il y a Souleymane Tamboura qui a écrit « Soit la jeunesse africaine engagera le combat de la liberté totale du continent, ou ça sera l'extermination et l'Occident viendra s'installer ». Bon, c'est un tableau un petit peu noir de la chose, on va dire. Il y a Tourelle Noël qui a dit « Vraiment, les femmes sont trop fatiguées, surtout les africaines hein. ». Ça, c'est vrai. Hein.
Absolument. Et il y a une erreur quand les gens pensent que naturellement la femme est faible ou la femme est créée selon ce que la Bible dit que...
Oui, non, mais bien sûr, on n'a pas à prouver. Hein,
c'est une fallacie de penser ça, parce qu'en 2017, comme on est, les femmes ont vraiment prouvé au monde qu'elles sont capables de faire tout ce que les hommes font. Et une autre fallacie...
Mais est-ce qu'elles doivent vraiment le prouver?
Elles ne doivent pas le prouver, mais...
On est un peu obligés, c'est
on
ça
On est obligés d'en parler souvent, ouais. et justement de corriger l'erreur historique, comme ouais. Monsieur Marie qui a ouais. dit que historiquement, mais ce n'est pas vrai. En Afrique, les femmes n'ont jamais pris la deuxième position. C'est venu avec le système patriarcat que l'Église a emmené en Afrique. L'Afrique n'était pas comme ça. Un exemple simple, chez moi, en République démocratique du Congo, on a des ethnies où c'est la femme qui est le chef de la famille. Et les enfants prennent son nom et les enfants lui appartiennent. Donc, dans les communautés africaines, avant l'arrivée du colon, on avait des systèmes où les femmes, souvent, vous verrez chez le roi, c'est les femmes qui sont les sages, qui donnent des conseils au roi. Parce que le roi avait compris que les femmes avaient des idées un peu plus neutres par rapport aux autres. Donc, la femme a toujours pris une place assez importante dans l'histoire de l'Afrique.
Alors, comment elles s'y prennent, justement, les femmes, en général, en Afrique, avec cette culture-là très pesante d'aujourd'hui, malheureusement.
D'aujourd'hui, oui.
Comment elles s'y prennent, justement, pour arriver un petit peu au-dessus? Même les femmes instruites, elles ont beaucoup de mal, même les femmes qui ont fait des études.
Même ici, aux États-Unis, oui, les femmes, voilà. Les femmes ont du mal parce qu'on a justement le système patriarcat et un système qui dit que... En fait, c'est le fait de ne pas vouloir partager son pouvoir. C'est vraiment tout est là sur le pouvoir de l'homme qu'il a eu et qu'il ne veut pas partager.
Est-ce que, dans le cas de la résolution des conflits, est-ce que la femme aurait tendance à demander plus de partage équitable? Justement,
Devrait, parce que dans toutes les sociétés, la femme occupe quand même la moitié de la population. Donc, elle doit demander d'être partagée également le pouvoir. Et souvent, les femmes ont presque les mêmes demandes quand ils viennent à la table. Ça veut dire, c'est améliorer le social, améliorer l'éducation. On voit un peu les.
Ça, forcément, c'est important pour les femmes parce que ça les soulage.
Absolument,
l'éducation, le système social, la santé.
La santé, voilà.
C'est énorme pour une femme.
La santé, absolument.
Ne serait-ce que la question de la maternité.
Oui, parce que c'est elle qui tombe enceinte et c'est elle
le
qui doit...
Familial.
Voilà, planning familial, c'est elle qui doit planifier la famille. Et vous verrez, en Afrique, souvent, quand on donne un poste à une femme, c'est souvent ministre de genre et enfants et famille, parce qu'on pense que la femme ne peut que s'occuper des genres et qu'elle ne peut pas faire autre chose. Et ça, ça n'a rien à voir avec les capacités de la femme. C'est vraiment l'homme qui veut minimiser la femme pour ne pas lui donner le pouvoir.
Généralement, c'est du reste un ministère. On ne va pas être aussi sévère avec le ministère du genre qu'avec le ministère de l'Intérieur, de la Sécurité ou des Finances. C'est-à-dire que, on va lui demander des résultats forcément,
exactement.
Mais on ne va peut-être pas lui demander les mêmes résultats.
Absolument pas, et c'est ça. Et on a prouvé en Afrique, en Afrique centrale, on a vu une femme qui a dirigé la transition. Elle a fait un travail extraordinaire. On a vu au Libéria une femme présidente. Donc, les femmes n'ont plus à prouver les actes, mais elles doivent constamment rappeler les hommes qu'elles sont quand même capables de faire tout ce que...
Et qu'elles sont là.
Voilà. Elles sont tout là, elles ne partent pas, absolument. Ouais. Et elles doivent s'organiser, elles doivent absolument s'organiser, surtout en Afrique, pour justement enlever ce stigma qui dit que la femme n'est que... elle vient second de l'homme, qui n'a vraiment pas de sens.
L'Union africaine, c'est un bon mécanisme pour... parce que on sait qu'il y a énormément de programmes pour les femmes, il y a beaucoup d'accent même dans les programmes à long terme.
Absolument.
C'est axé là-dessus. Est-ce que c'est vraiment un organisme qui fonctionne bien pour vraiment mettre les femmes de l'avant ou pas?
Comme j'ai dit, le problème de ce problème n'est pas seulement en Afrique. On le retrouve un peu partout,
oui,
aux États-Unis.
C'est universel. Oui.
Donc même quand l'ONU parle de qu'on doit partager le pouvoir avec les femmes, ou que l'ONU a les programmes pour l'égalité de droits des femmes et des hommes, mais en application, c'est toujours pas ça. Pourquoi? Parce que eux-mêmes, les gens qui sont à l'ONU,
l'application, en fait, c'est l'application, c'est que bon, peut-être je fais un raccourci rapide, on va dire, mais pour vraiment résoudre les conflits en Afrique, il faut tout simplement plus de femmes au pouvoir, non?
Absolument. Ouais. Ça, c'est mon opinion, parce que oui, elles sont victimes, elles vivent souvent d'ailleurs pendant les guerres. Les hommes qui vont en guerre ou pendant la bataille, c'est les hommes qui meurent en général. Elles sont victimes souvent de violences sexuelles, elles deviennent esclaves sexuelles, leurs enfants deviennent enfants soldats, mais souvent les femmes survivent cette catastrophe. Ça veut dire qu'elles ont la mémoire assez... Elles se rappelleraient et très facilement de pourquoi on y est arrivé et comment y remédier. Parce qu'elle vit ça et elle survit ça. Elle survit les guerres et elle peut apporter des solutions qu'elle a vues durant plusieurs guerres. Par exemple, au Congo, les guerres à l'Est ont pratiquement fait 20 ans. Et il y a des femmes qui ont survécu ça pendant 20 ans. Il y a des femmes qui ont été esclaves sexuelles plusieurs fois de différents groupes armés.
Donc, et on doit les écouter.
Voilà. Et on doit les écouter parce qu'elles savent exactement qu'est-ce qui fait qu'on y arrive là, quelle a été la faille dans la sécurité qui fait que les groupes armés sont revenus.
Les femmes âgées qui ont traversé tout ça, toutes ces guerres perpétuelles, toute cette violence.
Voilà, cette violence. Et elles savent comment la communauté a été dispersée ou a été carrément anéantie.
Elles savent quel genre d'erreurs ont toujours été répétées pour qu'elles se retrouvent toujours dans cette situation.
Mais souvent, elles ne sont jamais considérées. Même quand on les emmène pour témoigner, les gens ne prennent pas souvent au sérieux. Et souvent, vous entendez que les femmes ont été victimes soit des actes sexuels ou des violences sexuelles. Mmh. Les hommes disent toujours ça, c'est les problèmes des femmes. Mmh. Comme si c'est les femmes qui se sont violées entre elles. Mmh. Et dans l'acte de la violence sexuelle, il y a l'autre partie, c'est l'homme. Donc souvent, ils se mettent pas en position de prendre des responsabilités sur les violences.
Je crois qu'on a deux auditeurs en ligne, une dame et un monsieur.
Allô ?
Oui, je vous écoute.
Madame Pasquereau.
Formidable, on vous écoute, allez-y.
Alors, je viens juste de prendre la ligne. Et donc, j'ai écouté au niveau des femmes.
Mmh. Et alors, qu'est-ce que vous auriez à dire ? Le sujet, c'était l'implication des femmes et des jeunes dans la résolution des conflits. Ont-ils leur mot à dire ? Est-ce qu'on les écoute, selon vous ?
Alors, moi, je dis oui, tout à fait, on les écoute. Pourquoi ? Parce que où je suis en République centrafricaine, la femme, c'est l'avenir. Donc, tous les conseils que les femmes donnent, les hommes sont très, attentifs à ces conseils et les suivent en général. La femme ici est source de paix, de transmission aussi au niveau déjà de la naissance, mais source d'idées et d'idées qui sont acceptables puisque l'homme sait que la femme est forte. Mmh. Ça, c'est la première analyse ici.
Ouais. Concrètement, de quelle manière vous pensez que les femmes, par exemple, ont été écoutées en Centrafrique ?
Mais parce que quand il y a des problèmes ou il y a des crises, qu'est-ce qui se passe ? La femme, elle peut aller sur le terrain. Il y a eu des moments donnés où elles ont manifesté. Et quand elles manifestent, les hommes ont peur. Parce que ces femmes sont courageuses.
Ça a marché, donc, selon vous, en Centrafrique, justement, l'influence des femmes dans la résolution du conflit ?
Ah oui, tout à fait.
Mmh. C'est une réussite.
Oui, mais la question devient, est-ce qu'elles ont pu partager le pouvoir une fois qu'on est allé pour parler ?
Oui, on a eu une présidente de transition, mais maintenant...
On a une présidente de transition, mais elles ont eu leur mot à dire. Et puis là, actuellement, au gouvernement aussi, il y a des femmes. Donc, l'histoire de, la question de la parité n'est pas le problème. C'est que la femme, avec son intelligence, son intellect, est-ce qu'elle veut être dans ces positions gouvernementales ou elle veut plus être dans d'autres positions au niveau non gouvernemental ? Et ça, c'est à la femme.
Et pourquoi pas les deux ? Elle veut un petit peu des deux, la femme. Elle n'est pas bien différente de l'homme, non ? Vous pensez qu'il y a une différence dans...
Non, mais on est tous différents, forcément, parce qu'on est tous uniques. Donc on ne peut pas se comparer à un homme comme un homme ne peut pas se comparer en femme. En étant psychologue, je veux dire, quand je suis en tout homme, il y a une part de féminité, et en toute femme, il y a une part de masculinité. Donc...
Je suis désolée, c'est vraiment vous arrivez au terme de l'émission. Un grand merci pour votre commentaire, pour votre témoignage. Je remercie également Nita et Vélé. Merci à tous nos auditeurs également, et à très bientôt, au revoir.
Merci, c'était un plaisir.
Arrête.
Good night and good luck. This is what it all comes down to. Keep your head high, take a breath, look around you. Round two, you open your eyes.
flat on your back, you look to the sky, you rise.
On se prend par la tête, moi qui arrive, on va quand même faire la fête. On se bat ensemble, tout ça pour prophète. Ne pas satisfaire tout le monde sur la planète. On se prend par la tête, on se prend par la tête. On se prend par la tête, nous voilà relaxés, depuis autant de bons sont passés. Pour tout qu'on s'est l'allié, parce que musique ça son mouvement masqué. C'est pour toute classe liée, si on est qui vient d'abord la chier. C'est pas la place liée.
Nous c'est un médicament. Pour ça pas content. Ça qui fâche à pas les mal, nous pas décourager.
On se prend par la tête, quoi qu'il arrive, on va quand même faire la fête. On se bat ensemble, tout ça pour prophète. Ne pas satisfaire tout le monde sur la planète. On se prend par la tête, on se prend par la tête. On se prend par la tête,
tout pays à watch ya, balancez avec ok. La forme de tout, pas quitter problème, pas problème tendez. Je dis on l'autre jour, qu'elle est proposée pour avoir ça le poté. La forme de tout, même si y'a pas le quitter au palais. La forme de tout, grâce à Dieu, nous là.
On se prend pas la tête.
Carlos Black Navy,
Jay Berry,
yeah,
featuring